VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du lundi 24 août 2015. Au sommaire ce soir.
Au Mali, l'incertitude plane encore autour du maintien des accords de paix.
Cet accord est en train de montrer ses limites et de montrer qu'en fait il n'y a pas de confiance.
On écoutera un membre du MNLA, groupe armé du nord du Mali.
Regain de tension entre le Burundi et le Rwanda.
Le 14e forum international de l'AGOA a débuté ce lundi à Libreville, au Gabon.
La France accorde sa plus haute distinction, la Légion d'honneur, à 3 Américains et un Britannique après l'attaque manquée de vendredi contre un Thalys.
La bourse new-yorkaise en chute libre pour la 2e journée consécutive dans le sillage des marchés asiatiques et européens, mais la situation s'est un peu améliorée en milieu de journée.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
On parle de regain de tension entre le Burundi et le Rwanda. Kigali affirme avoir évoqué avec Bujumbura l'arrestation et la détention de plusieurs ressortissants rwandais par les autorités burundaises. De son côté, Amnesty International accuse le régime de Pierre Nkurunziza de torture. Jacques Aristide fait le point.
Dans un rapport publié aujourd'hui, l'Organisation de défense des droits de l'homme écrit que l'usage de la torture et autres mauvais traitements contre des membres de l'opposition politique ou supposés tels semble se répandre et s'aggraver depuis le début du mouvement de contestation fin avril contre le troisième mandat du président Nkurunziza, finalement réélu le 21 juillet. L'ONG dénonce également le caractère arbitraire des arrestations et détentions et l'absence d'avocats, de médecins et de visites de proches. À ce propos, justement, le Rwanda voisin a fait savoir qu'une trentaine de ses ressortissants qui se rendaient dans la capitale burundaise ont été appréhendés et emmenés vers des destinations inconnues. Dans un message posté sur Twitter, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, affirme avoir soulevé la question avec le gouvernement burundais. Ces nouvelles interviennent alors que la situation sécuritaire continue de se dégrader avec des attaques nocturnes contre la police et des assassinats ciblés à Bujumbura et en province. Samedi soir, l'administrateur de la commune d'Izal, Pontien Barutwanayo, qui était membre du parti de l'opposant Agathon Rwasa, a été abattu par des hommes non identifiés alors qu'il prenait un verre en plein cœur de sa localité.
Au Mali, ce matin, la coordination des mouvements de l'Azawad a claqué la porte du comité de suivi de l'accord de paix. Propos testés contre ce que la CMA appelle la violation flagrante des différents cessez-le-feu. Des combats avaient opposé les 15, 16 et 17 août derniers, la CMA et le GATIA, groupe d'autodéfense pro-gouvernementale, malgré le fait que ces deux groupes aient signé l'accord de paix d'Alger. Claire Morin-Jubourg a joint un des représentants du MNLA, membre de la CMA, Moussa Ag Assarid.
La confiance qui devrait s'établir de mieux en mieux est en train de s'écorcher énormément. Déjà, l'accord qui n'était pas accepté par la majorité de la population de l'Azawad est en train, malheureusement, de partir en l'air. C'est-à-dire que cet accord qui a été bricolé, qui est une sorte de mascarade, parce que la coordination n'était pas rassurés, n'étaient pas vraiment d'accord, mais qu'avec des pressions, avec des menaces, avec des contraintes, la coordination des mouvements de l'AZOA, de la CMA, l'a quand même signé et est en train de vraiment aujourd'hui démontrer ses limites et démontrer qu'en fait il n'y a pas de confiance. Dans cet accord, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de fédéralisme, encore moins d'indépendance, alors que la revendication des populations de l'AZOA, c'est l'autogestion de leur territoire, c'est-à-dire un référendum d'autodétermination. Donc maintenant, la population et la coordination vont revenir à une position plus radicale, donc plus logique d'ailleurs avec ses revendications principales qu'avant. Et c'est dommage.
Moussa Agassari, représentant du MNLA, membre de la coordination des mouvements de l'Azawad.
Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a annoncé ce lundi l'ouverture d'une enquête sur l'achat d'armes et d'équipements pour l'armée pendant les 8 dernières années dans le cadre d'un programme de lutte contre la corruption. Le conseiller de sécurité nationale, Babagana Manguno, a lancé un comité chargé d'identifier les irrégularités et de faire des recommandations pour rationaliser le processus d'approvisionnement, a déclaré le porte-parole de la présidence, Femi Adesina, dans un communiqué cité par l'AFP. Investi le 29 mai, Muhammadu Buhari s'est engagé à lutter farouchement contre le démon de la corruption au Nigeria. et à traduire en justice les responsables.
République démocratique du Congo, l'association africaine de défense des droits de l'homme dénonce les appels à la candidature du président Kabila pour un troisième mandat en 2016. L'Assado rappelle à l'ordre la chaîne publique RTNC, les acteurs politiques de la majorité présidentielle et les ministres pour qu'ils mettent fin aux appels à ce qu'elle qualifie de violation de la Constitution.
République centrafricaine, Bertin Béa a regagné volontairement son lieu de détention dans une gendarmerie de Bangui. C'est ce qu'indique une source proche du parquet citée par l'agence France-Presse. Secrétaire général du parti de l'ex-président François Bozizé, il avait été arrêté le 15 août alors qu'il allait prendre un vol pour Paris, puis libéré jeudi par ses militants.
Attentat à Rachid dans le nord de l'Égypte. 3 policiers ont été tués et 33 autres blessés par l'explosion d'une bombe au passage de leur bus, selon des sources officielles.
Étape importante dans la lutte contre Ebola. Le dernier malade connu à Sierra Leone est guéri. Il a quitté l'hôpital, affirment les autorités. Officiellement, la Sierra Leone, qui n'a pas connu de nouvelle infection depuis plus de 2 semaines, est sur le point de rejoindre le Libéria, qui ne compte plus de cas d'Ebola. On ne peut pas en dire autant de la Guinée qui continue d'enregistrer de nouvelles infections.
Et puis ce fait divers au Nigeria, un homme a été poignardé à plusieurs reprises et brûlé vif par la foule pour avoir volé un pot de soupe dans le sud du pays. Et c'est ce que rapportent les médias locaux.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président François Hollande a décerné la plus grande distinction française, la médaille de chevalier de la Légion d'honneur, à 3 Américains et 1 Britannique qui ont risqué leur vie vendredi soir pour prévenir un attentat dans le Thalys sur le trajet Paris-Bruxelles. Tatiana Mosso.
Deux jeunes militaires américains en vacances, Spencer Stone et Alex Carlatos, leur ami Anthony Sadler et l'homme d'affaires britannique Chris Norman ont pu neutraliser un Marocain lourdement armé qui avait décidé, selon les autorités françaises, de commettre cet attentat. En leur remettant la décoration ce lundi à l'Élysée, le président français a salué la bravoure de ces 4 hommes qui, a dit François Hollande, ont évité un carnage dans le Thalys.
Il suffit de savoir que Ayoub El-Kazani était en possession de 300 munitions et d'armes à feu pour mesurer à côté de quoi nous sommes passés. Une tragédie, un massacre. Au nom de la France, je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait.
Après la cérémonie, Chris Norman, 62 ans, s'est exprimé devant la presse, se disant à la fois surpris et très honoré. Écoutez-le sur France 24.
Je vais essayer de faire honneur à l'honneur qui m'a été fait. Je vous remercie.
Deux autres personnes, un Français et un Franco-Marocain, recevront la médaille de la Légion d'honneur ultérieurement. En attendant, les enquêteurs français continuent d'interroger Ayoub El-Kazani, 25 ans, fiché pour son profil d'islamiste radical par les services de renseignement de 4 pays, l'Espagne, la France, l'Allemagne et la Belgique. Il nie avoir voulu commettre un acte terroriste dans le Thalys.
Afflux de réfugiés en Europe, la chancelière allemande et le président français se sont rencontrés à Berlin pour discuter de la plus importante crise migratoire affectant l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les précisions de Michel Joseph.
Lors d'une déclaration commune à la chancellerie, Angela Merkel et François Hollande ont plaidé pour une stratégie européenne commune sur les réfugiés avant la tenue du sommet sur les migrations prévu en novembre. « Nous devons mettre en œuvre un système unifié de droit d'asile », a lancé le chef de l'État français. L'enjeu est de clairement distinguer les réfugiés de guerre des migrants économiques. Pourtant, aucun de ces centres destinés à les différencier n'a vu le jour depuis que leur création a été décidé fin juin. La chancelière allemande insiste que leur mise en place dans les pays de première entrée, donc la Grèce et l'Italie, ait lieu dès cette année. Alors que l'Allemagne a reçu 40% des demandes d'asile en Europe au cours des 3 premiers mois de l'année, les autorités exigent que l'accueil des migrants soit plus équitablement réparti au sein de l'Union. Berlin fait notamment pression sur les États d'Europe centrale. Mais les convaincre de faire plus ne sera pas facile. La Slovaquie, par exemple, rappelle qu'elle n'a rien à voir avec la crise en Afrique du Nord. Qui a bombardé la Libye ? Pas la Slovaquie, souligne le Premier ministre du pays, Robert Fico.
Les relations entre l'Égypte et le Hamas palestinien sont plus tendues depuis l'enlèvement la semaine dernière de 4 Palestiniens dans le Sinaï. Ce lundi, le groupe a rejeté sur le gouvernement du Caire l'entière responsabilité de cet acte, mettant en garde contre tout préjudice à son encontre. Le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Ismaïl Haniyeh, a indiqué avoir rendu visite aux familles des 4 otages palestiniens, membres présumés de l'organisation, que l'Égypte considère comme alliés aux frères musulmans égyptiens, un groupe interdit.
Célébration aujourd'hui du 24e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. Des milliers de soldats ont défilé à travers la capitale Kiev, notamment des unités ayant combattu les séparatistes pro-russes dans l'est du pays. Cependant, la parade de cette année s'est déroulée sans l'étalage des armes lourdes que l'on voyait autrefois dans de telles occasions. Le président Petro Poroshenko a promis le renforcement des effectifs et des capacités de l'armée ukrainienne, 16 mois après le début d'un conflit qui a déjà fait près de 7000 morts.
Les droits des homosexuels au centre d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est une première. Pour l'ambassadrice américaine Samantha Power, il était temps, 70 ans après la création de l'ONU, que le sort des personnes LGBT qui craignent partout dans le monde pour leur vie arrive sur le devant de la scène. Les membres du Conseil entendront les témoignages horrifiants des persécutions subies par des gays irakiens et syriens aux mains du groupe État islamique, souligne l'AFP.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place maintenant à la Minute Éco, un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Jean-Roger Billon.
La circulation des camions entre Douala et Bangui a repris samedi dernier. Les chauffeurs grévistes ont obtenu des assurances quant à la sécurité de leur convoi. C'est le résultat d'une concertation tripartite entre les directeurs généraux des douanes du Cameroun, du Tchad et de la République centrafricaine. Selon le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, il y aura un renfort des casques bleus. La Sierra Leone a annoncé que ses exportations d'or avaient été divisées par 3, tandis que celles de diamants avaient baissé de moitié au cours du premier semestre 2015, signe des dommages causés par l'épidémie d'Ebola sur l'industrie minière du pays. L'épidémie a également dévasté les industries de la Guinée et du Libéria, déjà fragilisées par des années de guerre civile, de dictature ou de coup d'État. Une récession de 2% est désormais attendue cette année en Sierra Leone, alors qu'une croissance de 8,9% était prévue avant le déclenchement de la crise sanitaire. La justice britannique vient de débouter Sukden, la société sucre et denrées, dans son différend avec l'exportateur de fèves African Source et le Conseil du Café Cacao, CCC, l'organisme étatique ivoirien en charge de la gestion de la filière. Sukden réclamait 2 millions d'euros de dédommagement pour livraison de cacao de mauvaise qualité dans le cadre d'un contrat international. La justice britannique, après vérification des faits, a jugé la plainte non fondée.
La Minute Éco, merci Jean-Roger Billon.
L'actualité sportive avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
On commence par les compétitions africaines, 5e journée de la Ligue des Champions.
Mauvaise opération des corbeaux du TP Mazembe. Ils sont tombés 1-0 face au Soudanais d'Al Hilal. Une belle occasion ratée donc pour les Congolais qui auraient pu prendre une avance sur leur concurrent. Le Maghreb Tétouan du Maroc a lui battu le Smoua d'Égypte 2-1, ce qui fait que désormais le TP Mazembe, le Al Hilal d'Égypte et le Tétouan sont à égalité avec 8 points chacun. Le Smoua d'Égypte, lui, en a 3.
Et parlons de ce qui se passe dans le groupe B, il semble que les Soudanais d'Almeric ont eu de la chance, non?
Oui, ils se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions après cette victoire de 3-2 sur le terrain des Algériens de Mouloudia El Urma. Avec 10 points, Almeric rejoint donc l'USM Alger, le leader du groupe B, déjà qualifié. Le Mouloudia El Urma donc qui bat Almeric 3-2, l'USM Alger qui écrase l'entente sétive d'Alger 3-0.
Et ça, c'était pour la Ligue des Champions. Dans la Coupe de la Confédération, 5e journée de la phase de groupe.
Eh bien, dans le groupe A, samedi, l'Espérance de Tunis est tombée face à Al-Ahli d'Égypte 3-0. Match nul, 1-1. Hier dimanche, entre le stade malien de Bamako et l'étoile sportive du Sahel de Tunisie, au stade Modibo Keïta de Bamako avec seulement 5 points, le stade malien laisse filer ainsi l'étoile du Sahel qui a désormais 10 points à égalité avec le national du Caire.
Afro Basket 2015.
Dans le groupe B, le Maroc a été battu par le Mozambique 85-82. Toujours aujourd'hui, le Sénégal affronte l'Angola. Et dans le groupe D, victoire du Cap-Vert sur le Zimbabwe 76-65. Et les éléphants de Côte d'Ivoire, eux, vont affronter les Algériens.
Merci Bagassi Koura pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Romain Dorcil et Morgane Guiriec, en votre compagnie, les dossiers du jour, première escale, le Burundi.
Les Burundais se sont rendus aux urnes ce lundi pour élire leurs chefs locaux, les conseillers collinaires. Selon le code électoral burundais, les partis politiques ne pouvaient entrer dans la course. Les candidats doivent être des indépendants. Mais malgré cette spécificité, l'opposition conteste la crédibilité du scrutin. VO Afrique a joint Tatien Siboman, porte-parole du parti Uprona de l'opposition.
Les élections collinaires consistent à désigner les chefs de colline ou de quartier. Et dans la même logique, on élit 5 personnes qui constituent les conseils collinaires, qui sont composés par 5 personnes élues au suffrage universel direct. Ce qui fait que celui qui totalise le plus de voix parmi les 5 personnes à élire devient directement le chef de colline ou de quartier.
Est-ce que les partis politiques sont réellement impliqués dans ces élections? Faut-il avoir une casquette politique pour briguer un mandat collinaire?
Normalement, au niveau du code électoral, c'est bien précisé que ces 5 membres des conseils collinaires ne sont pas élus sur base des listes de partis politiques, mais plutôt ils sont élus au titre d'indépendants. Mais malgré tout, on le sait, et ce n'est pas un secret pour personne, le parti CNDD-FDD fait tout pour que les Imbonerakure soient élus et soient les seuls membres de ces conseillers collinaires. Et c'est une violation toujours de la loi.
Et quelle sera la valeur de ces élections dans le prolongement des élections qui ont été boycottées et contestées par l'opposition?
Le processus électoral étant unique, et s'il a été déjà faussé dès le départ, tout doit être remis en cause. Donc les revendications de l'opposition restent toujours les mêmes. On cherche à remettre en cause tout le processus de fond en comble et reconvoquer de nouvelles élections et présider et organiser par une CENI réellement indépendante. Bien sûr, quand je parle de CENI, je parle aussi de ses démembrements, à savoir les CEPI et CECI. Et ce sont les CECI qui organisent justement ces élections collinaires. Et comme vous le savez, ceux-ci n'ont pas été composés dans l'esprit d'indépendance que nous avons toujours voulu, que le principe soit celui-là même qui guide la CENI et ses démembrements.
Quelles seraient les relations entre les chefs collinaires qui vont être élus, les diriger dans un climat de méfiance comme celui du Burundi?
Bien sûr que le climat ne sera pas sain. Si vous savez très bien que la grande majorité du peuple burundais n'a pas participé à ces élections, il est normal que les élus locaux ou collinaires n'auront pas la tâche facile parce que la population aura tendance à les rejeter parce qu'elle n'aura pas participé à leur élection.
C'était Tatien Siboman, joint à Bujumbura par Eric Manirakiza.
Visite du secrétaire général de l'ONU au Nigeria au 4e anniversaire de l'attentat suicide des islamistes de Boko Haram contre le siège des Nations Unies à Abuja. Arrivé dimanche, Ban Ki-moon, dont c'est le second séjour depuis cette tragédie, a rendu hommage aux 23 personnes tuées dans l'attaque. Il a eu des entretiens avec le président Muhammadu Buhari et divers autres responsables nigérians. Pour faire le point, Timothée Donangmaï a joint le professeur Ali Buhari de l'université d'État de Nassarawa à Kefi, près d'Abuja.
Le Nigeria est un pays de la ligne du front au sein du continent africain. Donc chaque fois qu'on reçoit un grand visiteur auguste tel que les chefs des Nations Unies, ça rend plaisir à la totalité des Nigériens.
On attend toujours l'offensive régionale contre Boko Haram. Qu'est-ce qui cloche?
L'offensive générale se poursuit. Bon, malgré quelques retards au niveau des l'établissement du haut commandement de cette force multinationale en Djamena, mais le problème a dû être résolu la semaine écoulée. Et bientôt, le siège du haut commandement de cette force multinationale sera bien placé en Djamena, au Tchad.
Avec cette visite du secrétaire général de l'ONU au Nigeria, qu'est-ce que Abuja peut attendre des Nations Unies comme appui dans cette lutte?
Au dire du patron des Nations Unies, les Nations Unies vont coopérer avec les Nigeria pour combattre ce fléau de Boko Haram et pour renforcer le développement. Donc, il s'est bien entretenu avec les 36 gouverneurs des États de la Fédération du Nigeria pour pouvoir voir comment les Nations Unies peuvent apporter son soutien pour le développement du Nigeria sur le plan économique et social. Et il a été aussi question de la lutte contre les polio au Nigeria. Le secrétaire général des Nations Unies a félicité les efforts déployés par les Nigériens pour combattre le fléau de polio.
Sur le front contre Boko Haram, le chef d'état-major nigérian a échappé au cours du week-end à une embuscade des insurgés islamistes.
Étant donné qu'il est le chef d'état-major de l'armée nigériane, il a rendu visite au front le long de la route menant la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Il a été victime d'une embuscade, mais au cours de cette embuscade, un soldat nigérien a été tué et environ une dizaine de blessés. D'après les rapports de l'armée nigériane, le terroriste de Boko Haram a subi une perte colossale.
Le professeur Ali Bouhari de l'Université d'État de Nassarawa, Kefi, près d'Abuja.
Le 14e Forum international de l'AGOA a débuté ce lundi à Libreville, au Gabon. L'AGOA est une loi américaine votée en mai 2000 par le Congrès. Elle a été renouvelée en juillet pour 10 ans. Ce dispositif législatif permet aux pays d'Afrique subsaharienne d'exporter plusieurs milliers de produits aux États-Unis sans frais de douane. Nicolas Pinault a joint l'ambassadrice américaine au Gabon, Cynthia Akwete.
C'est une réunion qui est très, très importante. Il y aura des délégations des États-Unis et aussi environ 35 pays en Afrique. Le but de cette réunion est de discuter l'AGOA et particulièrement comment est-ce qu'on peut profiter de l'AGOA pendant les 10 ans en venant. L'AGOA, c'est une loi qui donne les préférences aux pays en Afrique pour accéder le marché aux États-Unis. La loi, c'est la première fois en 2000 et maintenant on a renouvelé la loi en 2015 encore pour 10 ans. Et ça donne beaucoup de confiance pour les investisseurs qui veulent investir en Afrique. Parce qu'on sait, le moyen mécanisme pour encourager le développement, pour encourager la croissance, c'est avec commerce. Et c'est très important que l'Afrique maintenant est intégrée dans le monde du commerce.
L'argument du commerce pour le développement, c'est l'une des bases de la diplomatie américaine, justement, envers le continent africain?
Oui, c'est très important parce que, par exemple, AGOA, c'est clé pour nous, notre engagement économique.
Quel type de produits bénéficient de l'AGOA au Gabon?
Le pétrole. Mais le Gabon, c'est un pays avec beaucoup, beaucoup de potentiel et le gouvernement est en train de diversifier leur économie. Il y a beaucoup de potentiel dans l'autre secteur, par exemple dans le bois, par exemple dans la bijouterie et le produit de beauté, et aussi alimentaire.
Et quel est l'intérêt finalement pour Washington d'offrir cette facilité au continent africain?
Pour encourager le développement, pour encourager aussi la moyenne classe et aussi d'améliorer le taux de vie. Avec le rôle de le secteur privé, on peut travailler, on peut créer les emplois. C'est mieux pour le développement. C'est très, très important parce que nous pensons avec le respect des droits de l'homme, c'est aussi une augmentation de la bonne gouvernance. C'est la question de transparence, c'est la question aussi d'avoir un climat pour attirer les investisseurs. Et aussi un respect pour le rôle de les femmes. Et aussi, c'est très important que le gouvernement ait un processus de développer les politiques pour baisser la pauvreté.
L'ambassadrice américaine au Gabon, Cynthia Akwete.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur l'African Growth and Opportunity Act, l'AGOA, qui fête ses 15 ans. Le Gabon accueille cette semaine le forum sur cette loi américaine qui encourage les exportations. Quels ont été les apports de l'AGOA? Comment les entreprises africaines peuvent en tirer davantage profit? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum. Ce jeudi à 19h10.
La crise des réfugiés était ce soir au centre de la rencontre entre Mme Merkel et M. Hollande, qui ont accordé leurs exigences à l'égard des autres Européens afin de répondre à la pire crise migratoire depuis 1945. Au moins 2000 migrants supplémentaires sont parvenus dans la nuit de dimanche à lundi en Serbie et 7000 passagers ont été enregistrés durant le week-end en provenance de Macédoine, qui a rouvert sa frontière avec la Grèce samedi après 3 jours de fermeture. En dehors des Balkans, les gardes-côtes italiens ont coordonné le sauvetage de 4400 migrants en Méditerranée pour la seule journée de samedi, un chiffre record. Pour un éclairage, Claire Morin-Gibourg a joint le chercheur spécialiste d'immigration Jean-Philippe Dedieu.
Au-delà de Schengen, de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne, ce qui me paraît assez frappant, c'est combien l'extraordinaire mauvaise gestion de la crise des réfugiés, ce qu'on appelle « refugee crisis », actuellement remet, à mon sens, totalement en question les fondements et l'esprit de l'Europe et des pères fondateurs de l'Europe. J'étais particulièrement frappé de voir Federica Mogherini, lorsqu'elle évoque cette question des flux migratoires, évoque le démantèlement d'un business model. Donc on a l'impression que l'ensemble du discours, mais également des actions des représentants européens est entièrement guidé par des considérations bien plus financières et économiques humanitaire. Et je me pose la question de savoir si, par exemple, il y a encore 10 ou 15 ans, lorsque il y avait des personnes telles que Helmut Kohl ou François Mitterrand, donc qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, le traitement de la crise des réfugiés actuelle aurait été celle que nous connaissons. Je crois qu'on observe un changement le passage d'une génération à une autre avec des personnes qui n'ont pas connu les drames de la Seconde Guerre mondiale. Et on arrive là où on en arrive aujourd'hui.
Pour vous, quelles solutions peuvent-elles être trouvées, peuvent-elles être mises en place?
Les solutions, c'est normalement lorsque Federica Mogherini a lancé cette opération en mai dernier, il devait y avoir pour résoudre ou apporter des solutions à la crise de réfugiés que nous connaissons actuellement, à la fois un volet resettlement, dans la mesure où l'ensemble des pays de l'Union européenne accueillerait un certain nombre de réfugiés. C'était le premier volet. On sait en fait que cela n'a pas véritablement été accepté. Et le second volet était une opération militaire mise en place, même si elle n'a pas reçu l'accord des Nations Unies.
Voilà, c'était Jean-Philippe Dedieu, spécialiste des migrations et chercheur à New York University.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace. Voice Africa.
Cette édition touche à sa fin. On remercie Georges Léonard Sagnot qui a dirigé la mise en onde, assisté de Justin Thwaite à la console. Présentation, Morgane Guériac et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.